La cinquième colonne, pilier de la terreur. Espagne, 1936. Le général Emilio Mola, dans une troublante élocution, plonge les républicains dans une profonde paranoïa. L'objet de la terreur, la cinquième colonne. C'est un concept, né d'un discours que ce militaire haut gradé, principal instigateur du coup d'État du 17 juillet 1936, a prononcé à la radio nationale. Alors que l'armée nationaliste espagnole, composée de quatre colonnes militaires, d'infanterie et de blindés, s'apprête à attaquer Madrid, le général franquiste déclare qu'une cinquième colonne est déjà dans la ville. Invisible, silencieuse, mais bien là, prête à répandre le sang lorsque le moment sera venu. Ce discours est un bluff. Le général Mola espère ainsi le recrutement insidieux d'une partie de la population madrilène pour faciliter la conquête de la capitale espagnole. L'histoire a démontré que cette stratégie de déstabilisation de l'ennemi, en prétextant un ennemi intérieur, prêt à agir à l'arrière du front, n'a pas souvent fonctionné. Elle aura au moins donné naissance à l'expression « cinquième colonne ». Cette dernière incarne l'idée insidieuse d'une force infiltrée, agissant secrètement pour affaiblir son adversaire de l'intérieur. Mais au-delà de l'idée, se cache une véritable stratégie militaire. Dans les faits, bien que les historiens aient attribué au général Mola le terme de la cinquième colonne, ou « quinta columna » en espagnol, cette expression viendrait de Franco lui-même. Le 30 septembre 1936, le chargé des affaires allemandes à Alicante, Hans Hermann Wölkers, envoie un télégramme à Berlin. À l'époque, l'Allemagne nazie soutenait les forces nationalistes et fascistes espagnoles du général Franco. Dans ce télégramme, le chargé d'affaires fait référence à une supposée déclaration du dictateur sur l'existence de quatre colonnes nationalistes approchant Madrid et d'une cinquième colonne attendant pour attaquer de l'intérieur. Le télégramme faisait partie de la correspondance diplomatique allemande secrète et a été découvert longtemps après la guerre civile espagnole. Le terme est utilisé à des fins de déstabilisation psychologique. Bien qu'elle ne soit pas une structure organisationnelle, à proprement parler, cette colonne a suffisamment d'impact pour créer le chaos. Peu avant le début de la Seconde Guerre mondiale, la France, qui n'était pas encore entrée en guerre contre les armées d'Hitler, se prépare déjà à des actes de trahison au sein de la population. À tel point que le 29 juillet 1939, un décret-loi pénalise l'acte de trahison, le considérant comme un crime de droit commun. La peine encourue est la mort. Il en va de même pour l'espionnage. Avant l'invasion des nazis en France, de véritables espions allemands s'infiltrent sur le territoire français pour semer le chaos et la confusion. Leur objectif est de perturber les communications et de propager de faux messages à la radio, prétendant que les troupes allemandes sont déjà aux portes des villes françaises. Ces informations trompeuses créent un mouvement de panique généralisé parmi les civils, entraînant une fuite massive de centaines de milliers de personnes sur les routes. Cette congestion rend difficile le déplacement des troupes alliées, entravant leurs opérations militaires. De plus, les civils, pris au piège de cette panique, deviennent des proies faciles pour les attaques extérieures. La cinquième colonne, initialement associée à une idée d'espionnage et d'opération clandestine, revêt soudainement le masque de l'ennemi allemand, renforçant ainsi la propagande et la perception d'une menace intérieure, potentiellement dévastatrice pour la France. Cette guerre hybride, à la fois psychologique et physique, contribue à perturber l'organisation des alliés et ont un impact significatif sur le moral de la population. L'impact psychologique de la cinquième colonne est particulièrement visible entre 1939 et 1945. Elle touche toute l'Europe. En 1940, en France ou en Belgique, on se méfie de ce fléau que représentent les espions. Maintenant que l'espionnage est passible de la peine de mort, tout le monde part à la chasse, dans les villes, mais aussi dans les campagnes. Les points sensibles sont étroitement surveillés. Des brigades sont déployées pour arrêter tout suspect qui aurait eu le malheur d'observer d'un peu trop près certaines installations militaires, des gares ou des aérodromes. les procédures judiciaires se multiplient. Parmi les premiers accusés, à tort ou à raison, des personnes qui avaient le malheur de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment, munies d'un appareil photo. Les consignes passées aux soldats sont claires. Ils doivent être méfiants, aussi bien des conversations de comptoir que de leur interaction avec de possibles faux officiers. De ce fait, la cinquième colonne semble reposer sur des simples suspicions, et non sur des cas concrets. Pourtant, certaines personnalités ont bel et bien incarné ce pilier du chaos. L'ambassadeur allemand Otto Abetz, figure clé de l'occupation nazie en France, joue un rôle crucial dans la cinquième colonne allemande. Dès son retour en France après l'armistice de 1940, Abetz orchestre des actions pour affaiblir et diviser la nation française, obéissant aux ordres de Berlin. Il supervise la confiscation de biens juifs et insinue l'idée d'un complot juif dans les hautes sphères du pouvoir. Il œuvre activement à entretenir la division des partis collaborationnistes. Diviser pour mieux régner, telle est sa devise. Il veille à écraser tout mouvement nationaliste trop puissant ou trop uni en France. Ami de Pierre Laval, une tête pensante de la politique de Vichy, Otto Abetz s'efforce de mettre en place des mesures antisémites, veillant à leur soutien par les autorités françaises. Il essaye de créer plusieurs alliances entre socialistes et syndicalistes, prônant l'unification de l'Europe sous la domination allemande. Dès le débarquement des Alliés en France en 1944, il est destitué de ses fonctions. En 1944, la cinquième colonne a des retombées inattendues. Lors du défilé du général de Gaulle, place de la Concorde, l'atmosphère joyeuse de la foule en liesse est rapidement assombrie par des tirs soudains. Les soldats, désorientés par la provenance des tirs ennemis, en cherchent l'origine. Mais l'ennemi ne se montre pas. Les coups de feu semblent provenir d'un tireur isolé. Dans la foule, quelqu'un crie « C'est la cinquième colonne !» Instinctivement, l'un des chars du défilé pointe son canon en direction de la cinquième colonne de l'hôtel Crillon, d'où semblaient provenir les tirs. Si la colonne est détruite, celle du Crillon, l'autre, la mystérieuse, l'occulte, continue à avoir une grande influence sur le monde entier. Elle laisse une forte empreinte, par exemple en Guinée, lors de la décolonisation. En octobre 1958, suite à l'indépendance du pays et au refus de l'adhésion au référendum proposé par De Gaulle, ce dernier envisage une série d'actions, orchestrées par les services secrets français pour punir le pays, qui a refusé le projet de communauté à la française, sur le même principe que le Commonwealth britannique. Retirant brusquement les fonctionnaires français, ingénieurs et cadres qui étaient les piliers de l'économie et de l'administration guinéenne, le général De Gaulle précipite ainsi volontairement le pays dans le chaos, pour le punir d'avoir refusé ce projet, jugé post-colonialiste par les nouveaux dirigeants de la République de Guinée indépendante. Sékou Touré, le président guinéen, cherche de l'aide auprès des pays de l'Europe de l'Est et de l'Union soviétique. Il établit un régime de parti unique et adopte un système socialiste en s'inspirant du modèle de l'Union soviétique. En 1961, la Guinée tente de rejoindre une union des États africains, mais cette initiative panafricaine échoue rapidement. S'ensuit un mouvement de chaos dont des ennemis se sont rendus responsables en agissant à l'intérieur même de l'État. Le colonel français et ambassadeur Maurice Robert, ex-chef du secteur Afrique au sein du service de documentation extérieure et de contre-espionnage, est missionné pour déstabiliser Sékou Touré et favoriser une opposition interne. La cinquième colonne s'abat sur la Guinée, entraînant toute une série de planifications d'actions visant à rendre Touré vulnérable et impopulaire. Des moyens logistiques sont mis en place pour soutenir l'opposition. Des exilés guinéens réfugiés au Sénégal sont impliqués dans la création de foyers de résistance dans le Fouta Djallon, appuyés par des experts français en opérations clandestines. L'opération Persil est un exemple typique de la force de frappe de la cinquième colonne. L'introduction de faux billets de banque guinéens pour perturber l'économie du pays a été une tentative d'affaiblir la Guinée de l'intérieur pour instaurer un changement de pouvoir selon les intérêts étrangers. Dans une autre époque et dans un autre pays, en Irak, en 1979, une convocation en urgence des hauts dirigeants du parti Baas est orchestrée par Saddam Hussein. Par le biais d'une vidéo, il expose sa ferme conviction d'avoir identifié une cinquième colonne infiltrée au sein du parti Baas socialiste arabe. Sous la contrainte et la menace de représailles envers sa famille, Abdul Hussein, un leader baasiste, avoue son implication supposée dans un complot soutenu par le parti Baas syrien contre Saddam Hussein. Il livre les noms de 68 personnes présumées impliquées dans cette affaire. Tous sont jugés et reconnus coupables de trahison. Parmi eux, 22 sont condamnés à mort, tandis que les autres reçoivent l'ordre d'exécuter leurs propres camarades. Cet événement se situe dans un contexte politique bien particulier. À l'époque, en 1978, des discussions pour unifier les deux parties basses se tiennent officiellement. Le vice-président irakien, Saddam Hussein, soutient ouvertement la fusion de l'Irak et de la Syrie. Étant devenu le chef effectif du parti basse en raison de la santé fragile du président irakien, Ahmed Hussein al-Bakr, Saddam insiste sur l'unification des branches syriennes et irakiennes du parti. Cela constitue la première étape vers l'intégration de la Syrie à l'Irak. Il souhaite également réhabiliter Michel Aflaq, cible de la liste noire du parti basse syrien, pour en faire le leader d'un parti basse unifié. Hafez al-Assad, président syrien, s'oppose fermement à ces demandes et rejette l'idée d'un commandement militaire commun. Lors de la démission d'Ahmed Hussein al-Bakr et de sa transmission de pouvoir à Saddam Hussein, des dissensions et des désaccords éclatent au sein du Conseil de commandement révolutionnaire. Ces divisions internes éveillent les soupçons de Saddam Hussein. Un simple soupçon sur l'existence d'une cinquième colonne peut changer toute la politique d'un pays. L'exemple irakien est parlant. La publicité des événements et les accusations de médias irakiens contre la Syrie ont entraîné une rupture complète des liens entre les gouvernements baassistes syriens et irakiens. Même si les preuves concrètes de la conspiration sont peu nombreuses, voire inexistantes, la décision du président irakien a un impact durable sur les relations entre les deux nations. Les tensions ont été renforcées. Par exemple, le soutien de la Syrie à l'Iran pendant la guerre Iran-Irak a conduit l'Irak à accuser Assad de trahir le panarabisme, ce mouvement idéologique visant à unifier des peuples arabes. Une tension de plus en plus accrue en 1981 au travers d'un mémo secret rédigé par Assad. Celui-ci exprimait sa volonté de prolonger la guerre pour faciliter le remplacement de Saddam Hussein par le Front nationaliste irakien pro-syrien. Ces tensions diplomatiques ont abouti à des années de soutien de la Syrie à des partis opposés au gouvernement irakien, tandis que l'Irak soutenait des groupes opposés au régime baassiste en Syrie. Lorsque c'est tout un peuple que l'on considère comme étant une cinquième colonne dans un pays, cela peut donner lieu à un racisme communautaire basé sur de fausses idées. C'est le cas au Japon, avec la Changryon. Il s'agit d'une association de résidents coréens, historiquement implantée au Japon à long terme. Elle est composée de migrants issus de la domination japonaise sur la Corée entre 1910 et 1945, de travailleurs forcés pendant la Seconde Guerre mondiale et de réfugiés d'après-guerre. Jusqu'en 1945, les Coréens ethniques étaient des citoyens japonais. Après la Seconde Guerre mondiale, leur nationalité est restée dans une position ambiguë, due à l'inexistence d'un gouvernement fonctionnel reconnu. Leur nationalité était provisoirement enregistrée sous le nom de Joseon, l'ancien nom de la Corée non divisée. Ceux ayant la nationalité Joseon ont pu la réenregistrer en une nationalité sud-coréenne. En revanche, pour les personnes issues des régions du Nord, il leur était impossible d'intégrer la nationalité nord-coréenne par non-reconnaissance de cet État par le Japon. Ainsi, la Changryon est perçue comme une entité marginale. Elle suscite la méfiance de nombreux Japonais. Leur affiliation avec le gouvernement de la Corée du Nord, leur orientation politique et leurs activités sont toujours source de controverses et de suspicions. Ils sont fréquemment stigmatisés, certains les considérant comme des agents potentiels du régime nord-coréen, préparant des activités d'espionnage ou même envisageant une éventuelle invasion. On observe ce même type de stigmatisation chez les Arabes israéliens, constituant 20% de la population en Israël. Certains pensent que leurs racines pourraient ne pas les rendre assez fidèles à l'État d'Israël. Ils sont considérés comme une forme de cinquième colonne de l'État palestinien. Plus récemment, dans le contexte de la guerre en Ukraine, les accusations d'appartenance à la cinquième colonne par Poutine ont visé les Russes qui s'opposaient à la guerre. En définitive, la notion de cinquième colonne alimente souvent la méfiance et crée des prétextes à la dénonciation. Les réelles actions de sabotage, de désinformation et d'espionnage menées par diverses entités issues des services secrets à travers le monde suffisent à justifier des tensions diplomatiques et à accentuer les divisions entre citoyens.